c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. En votre compagnie, Idrissa Sibulia pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, bonjour. Des hôpitaux au bord de la saturation et des élus qui tirent la sonnette d'alarme, la flambée des cas de coronavirus se poursuit sans trêve aux États-Unis ainsi qu'au Mexique, en Inde, au Chili, tandis qu'en France, l'emblématique musée du Louvre va rouvrir ses portes. L'Amérique, qui célébrait ce week-end sa fête nationale, enregistre depuis plus d'une semaine des nombres d'infections records, bien que le président Donald Trump continue de minimiser la crise dont il a assuré qu'elle était sur le point de s'achever. Le pays a recensé près de 40 000 cas pour un total de 2 876 143 et 234 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures pour un total de 121 891 morts selon un dernier bilan publié dimanche par l'université Johns Hopkins. Tentant de maîtriser la propagation du virus que les autorités admettent ne pas contrôler totalement, certains États américains ont interrompu leur déconfinement, voire sont revenus en arrière. Ce week-end de fête nationale du 4 juillet, les plages de Los Angeles étaient de nouveau fermées et Miami sous couvre-feu. En cause, un déconfinement jugé prématuré, notamment dans le sud et l'ouest du pays. La recrudescence de la pandémie touche aussi notamment le Mexique, l'Inde et l'Iran. La pandémie a fait au moins 531 789 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP dimanche. L'Inde est devenue le troisième pays en nombre de cas devant la Russie avec quelques 700 000 cas, selon New Delhi. Le Maroc, qui a annoncé 698 nouveaux cas de contamination, son bilan quotidien le plus élevé depuis début mars, a placé en quarantaine la ville méridionale de Safi, où un nouveau foyer épidémiologique est apparu dans une usine. Au Malawi, le nouveau président Lazarus Chakwera a annulé les célébrations de l'indépendance du pays prévues ce lundi et réduit de manière draconienne sa cérémonie d'investiture le même jour en raison d'une forte hausse des cas de coronavirus. Au Mali, la contestation a maintenu hier la pression sur le pouvoir en appelant à de nouvelles manifestations et en exigeant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a renouvelé son offre de gouvernement national pour le pays, toujours en proie à des violences meurtrières. Nous y reviendrons dans un instant avec Bagassi Koura. Le gouvernement d'Union nationale de Libye, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, a dénoncé hier des raids aériens menés selon lui par des avions de combat étrangers contre l'une de ses bases dans l'ouest du pays en conflit. Il s'agit de la base aérienne d'Al-Watiya, reprise en mai aux troupes rival du maréchal Khalifa Haftar. Grâce au soutien militaire turc, les pro-GNA ont repris ces derniers mois l'ensemble du nord-ouest libyen, signant l'échec de l'offensive lancée en avril 2019 par les pro-Haftar pour prendre Tripoli. Haftar est soutenu principalement par la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte. En Irak, une roquette s'est abattue dans la nuit de dimanche à lundi près de l'aéroport de Bagdad où son porte postés des soldats américains. La deuxième attaque en 24 heures contre des intérêts américains a indiqué à l'AFP un responsable des services de sécurité irakiens. L'armée, qui a fait état de 34 attaques contre des intérêts américains en Irak depuis octobre, a toutefois démenti tôt ce matin qu'une roquette ait été tirée dans la nuit. En Croatie, le premier ministre Andrej Plenković a revendiqué une grande victoire aux législatives de dimanche, où les conservateurs sortants ont nettement distancé leurs principaux adversaires de centre-gauche. Son parti domine la vie politique croate depuis l'indépendance du pays en 1991. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC.
La suite de nos informations. Au Mali, la contestation a maintenu dimanche la pression sur le pouvoir en appelant à de nouvelles manifestations et en exigeant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Keïta qui a renouvelé son offre de gouvernement national, Bagassi Koura.
Les responsables du mouvement de contestation dit du 5 juin, coalition de responsables religieux et de personnalités de la société civile et du monde politique ont rencontré dimanche après-midi le président Keïta au pouvoir depuis 2013. Après plusieurs semaines d'agitation politique, le chef de file de ce mouvement, l'imam Mamadou Diko, lui avait été reçu samedi à Bamako par le président malien.
Avec la volonté de tout un chacun et toutes les parties concernées, nous allons, Inch'Allah, trouver la solution.
Le président Keïta fait la sourde oreille et a royalement ignoré les demandes contenues dans un mémorandum du mouvement dit du 5 juin, a indiqué cette coalition dans un communiqué publié dimanche, quelques heures seulement après sa rencontre avec le président malien. Ces demandes incluaient la dissolution du Parlement et la formation d'un gouvernement de transition dont le mouvement désignerait le premier ministre que le président ne pourrait pas démettre. Après la rencontre de dimanche, le mouvement réaffirme plus que jamais sa détermination à obtenir par les voies légales et légitimes la démission pure et simple du chef de l'État. Il avait pourtant, le 1er juillet, indiqué ne plus faire de la démission du président Keïta un préalable au dialogue.
Un militaire angolais a été tué accidentellement hier par des militaires congolais après un incident dans la région frontalière du Kasaï. L'information émane de sources officielles congolaises, Yakuba Ouedraogo.
Selon Dele Kawino, ministre de l'Intérieur de la province du Kasaï, un militaire angolais a ouvert le feu et blessé un agent congolais de l'Agence nationale des renseignements. Nos hommes ont riposté et atteint un militaire angolais qui est malheureusement mort, a-t-il dit. Selon ce ministre provincial, avant l'incident, un groupe de militaires angolais était entré jusqu'à 3 km à l'intérieur du territoire congolais. Un d'entre eux s'est mis à filmer avec son téléphone portable avant de se voir intimé d'arrêter par les soldats congolais. Les autorités angolaises demandent le corps de leur militaire qui a été accidentellement tué ce matin par nos forces. Nous sommes d'accord sur le principe, mais nous leur avons demandé de nous dresser un procès verbal qui reconnaît que leur militaire a été tué sur le territoire de la RDC, a déclaré à l'AFP le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé. La RDC et l'Angola partagent une frontière de plus de 2500 km, outre celle avec l'enclave angolaise de la Cabinda, entre la RDC et le Congo-Brazzaville. La RDC dénonce régulièrement les incursions des troupes angolaises sur son territoire sous prétexte de poursuite des rebelles du Front de libération de l'enclave de la Cabinda-Fleck. En mai, des échanges de tirs entre l'armée congolaise et des éléments de l'armée angolaise au Kasaï s'étaient soldés par un blessé angolais et une confiscation de deux armes.
Des avions israéliens ont frappé des sites du Hamas dans la bande de Gaza hier soir. Selon des sources palestiniennes et israéliennes, ces frappes ont eu lieu après qu'Israël a indiqué que 3 roquettes avaient été tirées vers son territoire, Michel Joseph.
Les militaires israéliens précisent que leur avion avait frappé des infrastructures souterraines appartenant à l'organisation terroriste Hamas en réponse aux tirs de roquettes. L'armée israélienne avait d'abord fait état dans un communiqué du tir de 2 roquettes sans préciser leur point de chute, mais les médias locaux ont affirmé qu'elles étaient tombées dans un secteur inhabité. Un second communiqué militaire publié juste après avait annoncé le tir d'une 3e roquette qui a été interceptée par le bouclier antimissile israélien Iron Dome. Les sirènes d'alarme ont retenti à 2 reprises dans le sud d'Israël, voisin de la bande de Gaza, pour alerter sur ces tirs. Aucun groupe palestinien n'a revendiqué les tirs à partir de la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israélien et contrôlé par le groupe islamiste palestinien Hamas, une organisation considérée comme terroriste par Israël. Le dernier tir de roquettes contre le territoire israélien depuis l'enclave palestinienne remonte au 26 juin. L'aviation israélienne avait frappé en représailles des positions du Hamas à Gaza. Le 25 juin, la branche armée du Hamas avait mis en garde Israël contre son projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée, qui équivaudrait, selon elle, à une déclaration de guerre. Une annexion de colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, est prévue par le plan proposé par l'administration américaine de Donald Trump pour un règlement de conflit israélo-palestinien.
La Minute Écho, Ekia Badou.
La direction d'Air France a confirmé vendredi vouloir supprimer 7 580 postes dans la compagnie Air France et la filiale régionale HOP d'ici fin 2022 pour faire face à la crise du Covid-19 qui frappe durement le groupe. Elle prévoit la suppression de 6 560 emplois sur 41 000 au sein de la compagnie Tricolore et 1 220 au sein de sa filiale régionale. La production d'uranium de la Namibie devrait bientôt augmenter. Paladin Energy veut en effet profiter de l'embellie des prix pour reprendre l'exploitation de l'Engie Enrich. Pour cela, il faudra investir 81 millions de dollars afin de produire 88,5 millions de livres d'uranium sur 17 ans. Le cours du cuivre a connu une hausse de 21% au deuxième trimestre 2020, portée par l'amélioration de la demande chinoise. La tendance devrait se poursuivre avec les risques de baisse de la production en Amérique du Sud, ouvrant notamment la voie à d'autres producteurs comme la RDC et la Zambie. Le métal rouge a fait un bond au deuxième trimestre de l'année, dépassant même 6 000 dollars la tonne la semaine dernière, une première depuis le début de la pandémie de Covid-19.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
L'Assemblée générale ordinaire, en prélude aux élections à la Fédération ivoirienne de football, a eu lieu à Yamoussoukro.
Oui, et les délégués ont accordé leur quitus à la gestion du président sortant, Sidi Diallo, qui a livré ses impressions à la fin de cette assemblée. On l'écoute.
C'est 100% de membres actifs. Donc tous les 14 clubs de Ligue 1 étaient là, les 24 clubs de Ligue 2 étaient présents, les 38 clubs de Division 3 et les 5 de Pan de l'Intérêt, donc les 81 membres étaient représentés. Les travaux se sont très bien déroulés. Nous avons commencé par la validation du procès verbal de l'Assemblée passée. Nous avons voulu faire les choses selon les règles de l'art. Nous n'avons pas, pour cette année, validé tout ce qui devait être passé au vote par acclamation. Donc nous avons, vous avez vu que ça a pris du temps, depuis 11h nous sommes dans la salle, et nous avons commencé par approuver le rapport d'activité. Donc à la majorité, le club a validé le rapport d'activité.
À l'instant, Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, et au thème de cette assise, la commission électorale a été installée et a pour président l'ancien ministre des Sports René Diby. Pour rappel, 4 candidats se sont officiellement déclarés pour cette élection qui aura lieu le 5 septembre prochain. Il s'agit de Souri Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba et Paul Kofi Kwadio.
Le Burkina Faso se retire de l'organisation du tournoi qualificatif de la CAN des moins de 20 ans, Mauritanie 2021.
C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B. Les qualifications de cette zone UFOA B prévues du 12 au 26 septembre prochain à Ouagadougou n'auront plus lieu. Les raisons évoquées sont le report de tous les grands événements sur le territoire burkinabé jusqu'en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus.
En Europe, on jouait en Espagne la 34e journée du championnat. Le Real Madrid fait un pas de plus vers le titre.
L'équipe entraînée par Zinedine Zidane a aligné un 7e succès consécutif en s'imposant sur le terrain de l'Athletic Bilbao 1-0 grâce à un pénalty de Sergio Ramos. Les Merengues comptent 4 points d'avance sur le FC Barcelone qui s'est régalé à Villarreal 4-1.
30e journée en Italie et la Juventus de Turin se rapproche d'un nouveau titre.
Tout à fait, Idrissa. La formation de Maurizio Sarri a eu raison de Torino 4-1 dans le derby de Turin. Une belle affaire pour la vieille dame. En tête avec son 15 points, les Bianconeri prennent 7 longueurs d'avance sur la Lazio de Rome et trient à domicile par le Milan AC, score 3-0.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les communautés de la région de Mopti, dans le centre du pays, demandent une présence accrue de l'armée et une plus grande coordination de la lutte contre le terrorisme dans la région. Leur requête fait suite au massacre le 2 juillet d'au moins 32 civils Dogon dans le cercle de Bankass par des terroristes. La patrouille des forces armées maliennes dépêchée dans la zone a été elle aussi attaquée. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Guari, Jindo, Pagadougou, Djalakanda, dans le cercle de Bankass, région de Mopti, sont les localités prises pour cible dans les attaques de mercredi. Un détachement de l'armée malienne parti en renfort est tombé dans une embuscade enregistrant 9 morts, 2 blessés et 4 véhicules incendiés. Adama Djonko est porte-parole des associations des jeunes du pays Dogon.
Des hommes en armes avec des véhicules et habillés en treillis militaires se sont présentés dans le village de Guari. Ils se sont présentés comme les pour que la population ne puisse pas soupçonner quoi que ce soit. Dès qu'ils sont arrivés, la population les a même acclamés, pensant que ce sont les militaires qui sont venus les sécuriser. Quand ils ont eu la bonne position, maintenant ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Depuis les abords du village jusqu'à l'intérieur du village, faisant 16 morts sur place à Guari. Et la même attaque a continué à Djimdo, où ils ont fait 14 morts. Après, c'est Pangadougou, ils ont fait 2 morts. Et Djalakanda, ça fait aujourd'hui 36 morts.
La recherche de la paix et du vivre ensemble doit être la priorité des populations qui sont toutes victimes du terrorisme, estime Abdoulaye Ba, membre de l'association Jeunesse Poulakou, une organisation de la communauté Pelu.
Compte tenu de cette situation qui connaît le Mali en entier, et particulièrement la région de Mopti, nous souhaitons que la paix revienne au Mali. La préoccupation, c'est d'abord c'est la sécurité. Il faut que la sécurité règne, il faut réinstaurer les structures qui sont perdues, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire les structures administratives, la santé et consorts.
Pour Ali Dolo, maire de Sanga, il ne s'agit nullement d'une confrontation entre Peul et Dogon.
Dire qu'avec, comme ils l'ont dit ici, bien dit, l'arrivée du gouvernement, qu'il y a changement, non, ça s'est empiré, surtout à l'approche de l'hivernage. Et ce qu'on a constaté, c'est de nous empêcher de cultiver, d'affamer la population. Le Peul n'est pas l'ennemi du Dogon. Le Dogon n'est pas l'ennemi du Peul. Quand on parle du Dogon, ce qui se passe au Burkina, c'est pas entre le Peul et le Dogon. Ce qui se passe en Afrique, c'est pas entre le Peul et le Dogon. Ce qui se passe au Niger, c'est pas entre le Peul et le Dogon. Donc c'est pas un problème Peul-Dogon.
Les terroristes qui ont attaqué les 4 villages n'ont épargné personne. Certaines victimes ont été tuées dans leur champ. Amilou Djimde, député de Kourou.
Ils sont en brousse, souvent à moto, deux à moto, souvent trois à moto. Ils viennent, ils vous trouvent en train de s'aimer et vous abattent comme des gibiers. Ça, c'est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Il faut que le G5 Sahel, en tout cas, prenne toutes ses responsabilités pour qu'on puisse sécuriser la forêt. La forêt se trouve à la frontière Mali-Burkina. Donc, dans cette forêt, ils sont très nombreux. Les bandits sont très nombreux, donc si les autorités parviennent à les neutraliser, en tout cas on pense que la paix peut venir.
Pour venir à bout des terroristes, les populations locales souhaitent une présence massive des forces armées maliennes, les FAMA, et une coordination de la lutte contre le terrorisme dans la région de Mopti. À nouveau, Adama Djonko, des associations des jeunes du pays Dogon.
Il y a le haut représentant que tu viens de dire, il y a une mission de réconciliation nationale, il y a tout un ministère de réconciliation nationale, il y a un ambassadeur qui est chargé de régler la crise du centre, il y a des ONG, il y a des associations au même moment sur le terrain pour chercher la paix pour une seule zone. Nous avons compris que cette façon de faire, ce sont les médiateurs entre eux-mêmes qui se tirent les pieds entre eux.
A signaler que le déplacement du Premier ministre Boubou Cissé à Bankass a été reporté pour des consultations en vue de la mise en place du nouveau gouvernement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Après la saisie et la mise aux enchères de l'avion présidentiel de Denis Sassou Nguesso à Paris, en France, les Congolais réagissent diversement à Brazzaville. Nombre y voient une honte pour le pays, tandis que d'autres appellent à l'audit de cette dette de 1 milliard d'euros que réclame l'homme d'affaires franco-libanais Mohsen Hojei. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Ce litige dure plusieurs années déjà et ne revient à la surface que quand l'homme d'affaires franco-libanais Oujed pose une action. La saisie et la vente aux enchères de l'avion présidentiel décidée par le juge français en est une autre attaque. Alain Akwala, ancien ministre du président Sassou Nguesso, appelle à l'audit de cette dette aujourd'hui fixée à plus d'un milliard d'euros, soit environ 655 milliards de francs CFA.
Ce qui serait raisonnable, c'est de faire une espèce de péréquation, de regarder ce que le Congo lui doit, raisonnablement, de 100 millions d'euros, on ne peut pas passer à un milliard, même si c'est vrai, la justice est intervenue, et puis ce qu'il doit au Congo. Et je pense qu'il faut que la communauté financière internationale puisse quand même regarder les choses de manière assez humaine. Et moi, je suis scandalisé en tant que Congolais, parce que je considère que c'est indigne ce que l'on fait à notre pays. Et cet avion aujourd'hui, qui appartient au Congo, est saisi sous prétexte qu'il n'a pas de statut diplomatique parce que les vols qu'il a effectués, ce sont des vols qui transportaient le président du Congo dans une autre partie de notre pays. Mais il se déplaçait en tant que président tout de même.
Pour le politologue Blanc, Constant et Barapéen, tout n'est pas perdu. Le Congo peut encore faire appel à un autre juge français.
Il y a encore de voies de recours. Donc on peut encore espérer, il faut avoir confiance aux avocats, notamment Maître Grossman, qui semble à un moment donné avoir la maîtrise de ce dossier.
Ces dernières années, la crise financière a révélé une dette insoutenable pour le Congo, dont plus de 40% de créances sont détenues par la Chine. Les traders, eux, refusent de négocier. L'économiste Hassène Bozir estime que le Congo risque gros.
Si nous avons des difficultés pour rembourser, ça veut dire que plus personne ne peut nous donner de l'argent. Et ceux qui avaient déjà accordé vont tout faire pour récupérer leur argent par tous les moyens, même en nous traînant devant les tribunaux, ce qui est humiliant, et en saisissant les biens comme ce que nous sommes en train de voir.
Pour l'analyste Alphonse Ndongo, ce genre de saisie des biens de l'État ont déjà eu lieu par le passé.
Par exemple, il y en a eu en France des saisies de comptes opérées sur les dépôts de la du port autonome de Pointe-Noire. Et il y en a déjà eu aussi avec Eker, Ozali, n'est-ce pas, qu'on connaît très bien, a fait saisir les avions de la compagnie aérienne en France. Là aussi, il a été prouvé par des artifices juridiques que non, ce n'était pas vraiment les biens qui appartiennent au trésor public congolais.
Par ailleurs, les opérateurs économiques nationaux font fait de tout bois pour obtenir le paiement de la dette intérieure. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Maître Léon Leforster, un des avocats des 9 membres ou anciens membres de l'entourage du président Paul Kagame, poursuivi dans l'affaire de l'enquête française sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana en avril 1994, estime qu'une partie de la justice a été rendue. En revanche, il dit être satisfait de l'issue du dossier en faveur de ses clients. Vendredi, la Cour d'appel de Paris a confirmé un non-lieu dans ce dossier, qui a appuyé sur le bouton qui a déclenché le génocide. Eric Manirakiza a joint à Paris Maître Léon Leforster.
Écoutez, mais la première pensée va aux victimes du génocide et aux personnes que Bernard Minguin et moi nous défendions. Les victimes du génocide, c'est une évidence. Pour les personnes que nous défendions, il y a eu plus de 20 années d'opprobre, de diffamation, de cruauté à leur égard, avec une volonté délibérée de mettre en cause le FPR et d'essayer de stigmatiser le travail de libération qui avait été le sien. Ce que l'on peut constater, c'est que dès le début de cette enquête judiciaire, le dossier a été manipulé par les plaignants et que, d'une certaine façon, il y aurait dû y avoir un non-lieu depuis très très longtemps. Au surplus, il y a eu un certain nombre de manœuvres dilatoires, un certain nombre de volontés d'éviter la recherche de la vérité de la part des plaignants qui se sont orientés systématiquement et qui ont voulu orienter des juges systématiquement contre les personnes du FPR. Donc je suis satisfait d'une certaine façon que nous arrivions enfin à une confirmation du non-lieu avec malheureusement un pourvoi en cassation.
Justement, il y a un pourvoi en cassation. Et la partie civile qui dénonce une connotation politique omniprésente dans ce dossier.
Oui, alors c'est encore une manœuvre de leur part, une manœuvre qui n'a pas cessé depuis des années, à la fois par des positions révisionnistes de la part d'un certain nombre d'historiens et d'hommes politiques, et d'autre part, une volonté délibérée de la part de certaines parties civiles de vouloir polluer le dossier en laissant croire que nos clients étaient responsables, alors qu'en réalité, ce n'est que très tardivement qu'ils ont fait des demandes d'actes, qu'ils n'ont pas fait pendant une grande partie de la procédure, et qu'ils ont tout fait pour faire traîner le dossier.
Est-ce que vous avez le sentiment que la justice a été totalement rendue? Il y a eu des victimes dans cet avion. On n'a pas encore trouvé qui a abattu.
Ah mais je suis entièrement d'accord avec vous. Une partie de la justice a été rendue parce que des personnes que l'on a voulu délibérément mettre en cause ont été mises hors de cause, mais les auteurs de l'attentat n'ont pas été pour le moment trouvés. Donc nous sommes totalement favorables, mais pas dans le cadre d'une enquête où nos clients seraient mis en cause pour que des investigations soient poussées pour déterminer les auteurs, les complices, les co-auteurs du génocide et qui sont à la base, sans aucun doute, les auteurs de l'attentat contre l'avion où se trouvait le président Abiramana.
Maître Léon Lefforster, joint à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Un syndicat camerounais de journalistes dénonce la confiscation du corps du journaliste Samuel Wazizi, décédé en détention l'année dernière selon les autorités camerounaises. Il était accusé d'intelligence avec les terroristes, ce que dément sa famille. Pour davantage de précisions, Eki Abadou a joint le président du CNJC, Denis Kouebo à Yaoundé.
Depuis l'annonce de la nouvelle de la mort de Samuel Wazizi, sa famille n'a plus eu de réaction de la part du gouvernement. Elle s'était proposée d'aller à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital militaire de Yaoundé pour prendre connaissance du corps qui s'y trouverait éventuellement. Cela n'a pas été possible en raison d'un certain nombre de tracasseries. À ce jour, un mois après, on n'en sait pas plus. C'est pour ça que, après consultation avec la famille, nous avons fait une déclaration pour dénoncer la confiscation du corps de Samuel Wazizi.
Vous qui êtes en contact régulier avec la famille, comment vit-elle cette situation et surtout, quels sont les recours possibles pour pouvoir récupérer ce corps?
C'est un véritable drame familial chez les Wazizi qui, après 10 mois de traumatisme de la détention au secret de Samuel, aujourd'hui est en attente, à défaut de la vérité sur ce qui s'est passé effectivement, mais au moins de son corps. Personne ne sait avec exactitude s'il est mort même ou pas, parce que le corps de Wazizi aurait au moins rassuré la famille sur deux plans. D'abord, à savoir qu'ils peuvent organiser le deuil tranquillement. Ensuite, de savoir que l'État, n'est-ce pas, de sa dépouille, pourrait renseigner sur ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il a été torturé? Est-ce qu'il a subi des sévices? Ça, c'est des questions qui ne peuvent pas avoir des réponses définitives tant que l'élément matériel qu'est ce corps-là n'est pas disponible.
Denis Kouébo, président du Syndicat national des journalistes du Cameroun.